RFI 23h en temps universel minuit, à Paris 2h à Mamoudzou. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Antoine Galen, bonsoir.
Bonsoir, vous écoutez RFI, la radio du monde, bienvenue. À la une de l'actualité, Mayotte, il ne reste plus rien des bidonvilles après le passage du cyclone Chido. Emmanuel Macron sera sur place dans les prochains jours. Dans ce département français de l'océan Indien, 4 habitations sur 10 sont des constructions précaires, vous l'entendrez. Bachar al-Assad sort du silence, l'ex-président syrien évacué en Russie qualifie les nouveaux dirigeants du pays, je cite, de terroristes. Et puis en fin de journal, direction les étoiles, où l'Union européenne lance son projet Iris 2 pour concurrencer Elon Musk. Mayotte dévastée après le cyclone Chido, bidonville détruite, télécommunications coupées, 21 personnes décédées officiellement, mais les autorités redoutent plusieurs centaines de morts, peut-être des milliers. Ce lundi, 25 premiers patients ont été évacués vers la Réunion. Les images de l'archipel montrent des quartiers dévastés, notamment des bidonvilles. Au moins 4 habitations sur 10 sont des constructions précaires, car l'archipel manque de logements. Ceux qui vivent dans des bidonvilles sont les premières personnes touchées, Charlotte Cosset.
Souvent mise en avant, la situation des sans-papiers sur l'île expliquerait le développement des bidonvilles. Cependant, les problématiques administratives empêchent un grand nombre de pouvoir prétendre à un logement social, souligne Marie-Madeleine Salvanès. Elle a travaillé sur la réhabilitation individuelle et urbaine à Mayotte.
Donc en fait, on peut avoir un parent qui est français, l'autre qui ne l'est pas, et donc des enfants qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, pour des raisons qui sont parfois assez aléatoires. En fait, au sein d'une même famille, on a des inégalités de statut administratif, et en fait, ces statuts-là empêchent les gens de pouvoir et travailler et quitter l'île. Et donc, du coup, forcément, en fait, ils sont contraints d'habiter dans des bidonvilles.
Malgré les préjugés, un grand nombre des occupants de ces habitats précaires sont soit français, soit en situation régulière, souligne Maître Marjane Guem. Elle a travaillé 10 ans sur l'île et notamment sur les contentieux d'expulsion.
Plus de 70% de la population à Mayotte vit avec moins de 3 200 € par an. Le SMIC à Mayotte est inférieur à la métropole. Il y a quand même une part assez importante de personnes de nationalité française, de personnes titulaires d'une carte de 10 ans ou de titre de séjour pluriannuel, qui travaillent, qui n'ont pas accès à une offre de logement social qui serait adaptée à des revenus aussi faibles. Donc, elles n'ont guère d'autre choix en réalité que de construire une case dans un quartier informel.
Dans un rapport publié l'année dernière, la Fondation Abbé Pierre mettait en avant des réponses publiques et des dispositifs d'intervention encore insuffisants et inadaptés.
Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il se rendra à Mayotte dans les prochains jours et qu'il y décrétera un deuil national. Direction la Syrie désormais. Bachar al-Assad sort du silence. « Mon départ de Syrie n'était pas planifié », ce sont les mots du président syrien tombé il y a plus d'une semaine après la prise de Damas par une coalition rebelle. Une déclaration dans un communiqué publié sur Telegram, écrit vraisemblablement depuis Moscou où il a fui. Théo Renaudon, dans cette prise de parole, il dément avoir abandonné le pays avant l'effondrement de son régime.
Il laisse entendre qu'il aurait voulu s'exprimer avant, mais que les coupures de communication l'en ont empêché. Bachar el-Assad fait dans ce communiqué le récit du samedi 7 et dimanche 8 décembre. Les rebelles islamistes assiègent alors Damas. Bachar el-Assad, lui, affirme qu'il est resté dans la capitale syrienne jusqu'au dimanche matin avant d'être exfiltré vers Latakia, là où se situe une importante base russe en Syrie. De cette base, il assure qu'il a voulu superviser les opérations de combat, mais trop tard. À ce moment-là, son régime est déjà tombé. Selon son récit, à son arrivée, plus d'ordre à donner, ses soldats ont fui et la base militaire russe dans laquelle il dit s'être réfugié est ciblée par des drones. Acculé, ce n'est qu'à ce moment-là, le dimanche soir, qu'il est évacué. Direction Moscou. Aujourd'hui, Bachar al-Assad dit que l'État syrien est tombé aux mains, je cite, de terroristes. Il écrit néanmoins être rempli d'espoir que la Syrie sera de nouveau libre et indépendante un jour. En attendant, il promet de publier un compte-rendu détaillé des événements lorsque, je cite, l'occasion le permettra, sans plus de précision.
L'Union européenne a annoncé l'envoi d'un représentant à Damas. Londres a également envoyé une délégation officielle dans la capitale syrienne pour rencontrer les autorités intérimaires. Une délégation française est attendue mardi. Pendant ce temps, l'armée américaine a annoncé avoir tué ce lundi 12 membres du groupe État islamique. lors de plusieurs frappes aériennes en Syrie qui ont visé, je cite, des dirigeants, des combattants et des camps du groupe djihadiste. En Géorgie, un sapin de Noël géant devant le Parlement, mais l'ambiance n'est pas à la fête. 19e jour de mobilisation pour les manifestants pro-Europe qui dénoncent des élections législatives truquées. Le parti au pouvoir a nommé Mikhail Kavelachvili comme président, un ex-footballeur d'extrême droite. Les États-Unis très préoccupés par l'état de la démocratie géorgienne. Déclaration du porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Il ajoute que les États-Unis se préparent à imposer de nouvelles sanctions contre la Géorgie après la décision de suspendre jusqu'en 2028 toute négociation d'adhésion à l'UE. L'actualité dans la région, c'est aussi en Azerbaïdjan. 3 ans de prison pour un graffiti dans le métro à Bakou. La condamnation en appel du graffeur français Théo Clerc a été confirmée ce lundi par la justice azérie. Une décision injuste et disproportionnée selon son avocate française Margot Fontaine. Elle considère que Théo Clerc est un otage diplomatique, victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Azerbaïdjan.
On espérait bien sûr un allègement et on est très déçus parce que c'est une confirmation d'une décision qui est injuste, en plus discriminatoire, puisqu'elle est fondée sur la nationalité de Théo Clerc. Il n'est pas du tout politique ni politisé. Et là, en l'occurrence, le graphe qui a été réalisé à Bakou, c'est un graphe de son pseudo de graffeur. Donc, il n'y a aucune phrase anti-régime, il n'y a aucune phrase anti-Azerbaïdjan, aucune revendication. Il a même écrit une lettre d'excuse au président à toutes ces audiences, il s'est excusé en disant qu'il était désolé, il a payé l'amende qui contribue à réparer le dommage qu'il a causé. On peut comprendre ce qu'il peut faire de plus, en fait. Donc, il paye le prix des relations diplomatiques qui sont très mauvaises entre la France et l'Azerbaïdjan. Force est de constater que les discussions qui ont pu y avoir entre les deux pays n'ont pas abouti à un résultat favorable. Donc, aujourd'hui, la France peut continuer ses discussions diplomatiques pour obtenir soit une infirmation en cassation ou alors un transfert de Théo en France pour exécuter sa peine de prison. On est en train de réfléchir à toutes ces options.
Des propos recueillis par Carlotta Morteo. RFI 18h07 à Ottawa. Au Canada, la vice-première ministre démissionne. Chrystia Freeland n'était pas d'accord avec le premier ministre Justin Trudeau. En cause, les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens. Une décision lourde de conséquences, car le Canada a pour premier partenaire les États-Unis, où partent 75% de ses exportations. La nouvelle administration américaine poursuit une politique de nationalisme économique agressif. Ce sont ces mots dans sa lettre de démission publiée sur X. Celle qui était également ministre des Finances a longtemps fait partie de la garde rapprochée de Justin Trudeau. En Bolivie, Evo Morales est dans la tourmente. Un mandat d'arrêt pour traite d'êtres humains à l'égard d'une mineure a été émis contre l'ex-président. En cause, une relation avec une adolescente de 15 ans avec laquelle il aurait eu une fille en 2016. La course à l'Internet de l'espace continue. L'Union européenne met en chantier Iris 2, une nouvelle constellation de satellites. Elle sera la troisième lancée par les Européens après Galileo et Copernicus. Cette constellation sera capable à la fois de concurrencer Starlink en fournissant téléphonie et Internet, mais aussi de sécuriser les télécommunications entre gouvernements, par exemple pour les questions diplomatiques. Pierre Benazé.
Iris 2, c'est l'abréviation de infrastructure de résilience et d'interconnexion sécurisée par satellite. Et cette constellation comptera 290 satellites sur 3 étages d'orbite de plus en plus haute, jusqu'à 35 km. Non seulement elle permettra de concurrencer Starlink, mais aussi d'assurer, je cite, la souveraineté européenne en matière de communication. L'ancien Premier ministre lituanien Andrius Kubilius est le premier commissaire européen chargé de la défense et de l'espace. Pour lui, les services militaires et civils que fourniront les satellites Iris 2 sont plus que jamais une nécessité.
Nous sommes menacés, nos communications de connectivité sont menacées. Les câbles Internet ont été coupés dans la Baltique. La Russie brouille nos signaux de navigation. La première chose que la Russie a attaquée une heure avant l'invasion à grande échelle était un satellite stationnaire exploité depuis l'Europe dans le cadre d'une cyberattaque très sophistiquée. Les paramilitaires russes font souffrir l'Afrique. Nous offrirons l'Internet à haut débit aux sociétés de soutien, envoyant ainsi un message vital de solidarité.
Avec la signature des contrats, la fabrication des satellites va pouvoir être mise en route avec l'objectif de faire les premiers lancements en 2029 pour que les services grand public soient accessibles fin 2030.
Pierre Benazé.